un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Il y a un peu plus de 10 ans, nous diffusions dans Les pieds sur terre une émission intitulée « Parmi les oiseaux ». Ça se passait d'un côté de la baie de la Somme, vers Saint-Valery, où Jean, un jeune homme de 29 ans, regardait les oiseaux, les appelait, les chantait, tout en disant sa quête de l'être aimé. Au même moment, de l'autre côté de la baie, Karine, 35 ans, observait les oiseaux à la jumelle. Allaient-ils se parler, se rencontrer ? L'histoire ne le disait pas, tout en le laissant espérer. 14 ans plus tard, je suis tombée un peu par hasard sur le même Jean qui sifflait une histoire, qui parlait oiseaux, dans un spectacle qui s'appelle Live Magazine. Il était accompagné sur scène d'un acolyte, siffleur, nommé Johnny. Un moment fou de poésie oiseau qui nous a donné envie de savoir ce que Jean était devenu s'il avait rencontré une femme oiseau, ce qu'il sifflait maintenant. Et aussi qui était ce Johnny dans ce duo d'oiseaux en vol. C'est la suite aujourd'hui de cette émission, une sorte de retour sûr pour reposer nos oreilles des bruits du monde et des bruits de bottes par Élise Andrieux, évidemment.
Je les égratte. En fait, quand je siffle un oiseau, c'est que je me retrouve dans la même position que quand j'avais 7 ou 8 ans et que j'ai commencé à le faire. J'étais tout petit, je rentrais de l'école, et en fait, tous les soirs, les goélands quittent, malheureusement, les décharges publiques pour venir dormir. Alors c'est marrant, ils ont su s'adapter aux décharges, mais ils viennent, ancestralement, ils viennent toujours dormir sur la côte et sur la plage. Donc le matin, on les voit partir dans les terres, et le soir, on les voit rentrer, donc on voit des grands V magnifiques. Et en fait, dès qu'ils voient la mer, la bande se met à crier. Le premier qui voit la mer, c'est un peu plage, plage, plage. Et toute la bande se met à faire comme une chorale. C'est magnifique. Hein. Et un jour, je ne sais pas ce qui m'a poussé, mais j'ai poussé le cri de la chorale. Quoi. J'ai fait le chef d'orchestre. Et d'un seul coup, j'ai vu la bande faire demi-tour. Parce que j'aurais dit que la mer était de l'autre côté. Je sais pas pourquoi ils ont fait demi-tour. C'est parce que le cri devait être tellement bien fait qu'ils ont été bernés et que j'ai transmis quelque chose. Je ne sais pas ce que je leur ai dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que j'ai influencé 40 ou 50 goélands. Donc c'était d'un seul coup, c'était un pouvoir magique. C'est ça, il y a une seconde, d'un seul coup, là, sa vie change en fait. Et j'ai compris que mon bonheur, ça sera de rentrer dans le monde sauvage en fait. C'est ça qui m'a toujours intéressé.
Il y a 14 ans, quand on s'est rencontrés, vous étiez déjà en train d'imiter les oiseaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis 14 ans, rien n'a changé et en fait, tout a changé. Je fais encore plus de chants d'oiseaux qu'avant. J'en vis complètement. C'est-à-dire que maintenant, c'est mon métier à plein temps. On est chanteur d'oiseaux. Alors, je me suis associé avec mon ami d'enfance, Johnny Rass, et on a parcouru les routes de France avec une rencontre avec Jean-François Zigel, qui est un improvisateur au piano, qui nous a fait découvrir le monde du spectacle et de la musique. Et puis après, on a eu des rencontres dans tous les univers possibles de la musique, dans le jazz, dans la musique classique, la musique populaire. En fait, toutes les musiques possibles nous ont contactés, nous ont rencontrés. Et à chaque fois, l'oiseau connecté à ces différents mondes. Alors, on a créé ce métier-là. On est chanteur d'oiseaux. Voilà, on a commencé comme ça. D'un seul coup, passer de la vase au tapis de danse. Voilà, on a dû changer juste de chaussures, on a enlevé les bottes en caoutchouc et on a mis nos petits mocassins noirs. Et c'était un autre monde. Et on pouvait faire nos chants d'oiseaux à plein temps. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'avait plus de chute, tais-toi, arrête, quand on rentrait chez nous. Là, d'un seul coup, c'était, on avait des loges, on pouvait chanter, chanter, chanter. On arrivait sur scène, on chantait avec le piano. On avait d'un seul coup un monde qui s'ouvrait à nous, qui nous répondait, qui nous comprenait. Et c'était le début d'une aventure extraordinaire et qui a fait qu'on a eu plein de dates partout en France. là, on va aller rencontrer Johnny. Alors Johnny, bah, c'est lui qui est à l'origine des chanteurs d'oiseaux, parce que c'est comme ça que l'histoire a commencé, l'histoire de la vie des spectacles. Alors on se connaît, hein, dans la cour de récréation. On a grandi dans le même village, à deux maisons l'un de l'autre. J'étais la maison un petit peu au-dessus. De ma salle à manger, je voyais sa maison. Et on se connaît depuis l'enfance. Hein. Voilà, c'est l'histoire du parcours est tellement longue. Un petit rouge-gorge.
Depuis tout à l'heure, il y a un rouge-gorge qui chante. C'est drôle. Il nous accueille. Enfin, en tout cas, je sais pas si Jean a eu l'occasion de le rencontrer. Il chante très bien. Il est là. Alors moi, je m'appelle Johnny. Et ma fascination, évidemment, ce sont les oiseaux. Ça a commencé à quelques encablures de Saint-Valery-sur-Somme et notamment de la mer de la baie de Somme, à Arré, dans un tout petit village de 900 habitants. Et au début... j'étais évidemment fasciné par les oiseaux. Je pense que c'est mon père qui m'a inculqué ça, puisque lui-même avait une grande, grande fascination pour les oiseaux. Il y a le rouge-gorge qui vient nous dire bonjour. Et c'est vrai, quand je vois un rouge-gorge, je me dis tout de suite que c'est un oiseau que je pourrais dessiner. Parce que ma vraie fascination depuis le début, c'est de coucher l'oiseau sur le papier. Et je crois que ça m'a fasciné depuis tout petit. Et évidemment, de l'âge à peu près de 3 ans jusqu'à 8 ans, je n'ai fait qu'offrir des dessins d'oiseaux à mes parents. C'est comme ça que ça a commencé. Tous les jours, je dessinais des rouges-gorges, des canards venus d'Europe. J'avais un livre de chevet dans ma chambre avec tous les oiseaux d'Europe. Et ça me fascinait. J'avais envie de partir en voyage avec eux. J'étais inspiré par le son, mais c'était vraiment la forme, les plumes, les couleurs. Le son, il est arrivé, il vient nous dire bonjour, il est vraiment très proche. Il est arrivé par la suite. C'est Jean qui a eu la force, je crois, et le courage de frapper à la porte de chez moi pour rencontrer mon père, car on lui avait dit que mon père connaissait tous les oiseaux de la baie de Somme, car il était berger dans la baie de Somme. Il est arrivé dans ma maison. Nous, on est une famille, une fratrie. Enfin, voilà, il y avait deux frères, une sœur. On était dans nos jeux d'enfants. Et puis un jour, on a vu débarquer le fils du pharmacien chez moi. C'était Jean. Il était très jeune, Jean. Il avait 9 ans. Hein. Habillé avec sa petite chemise, super bien propre. Sauf qu'il avait une particularité. C'est qu'il avait des bottes en caoutchouc. C'est très étrange, en fait. Il était très, très bien habillé, mais en bas, il avait de la boue et des bottes. Et mon père, je me rappellerai toujours du regard qu'il a posé sur lui. « Ok, qu'est-ce qu'il me veut, ce petit ?»« Bonjour, je suis le fils du pharmacien. Je viens vous voir, je veux faire des oiseaux. » Évidemment, mon père, il lui pose la question. Il lui dit « Bon, d'accord, ok, tu veux faire des oiseaux. Et qu'est-ce que tu sais faire, toi, comme oiseau ?» Et là, Jean lui dit « Les mioles, c'est-à-dire les goélands ou les mouettes. » Sauf que quand mon père lui a demandé « Bah vas-y, fais ta miaule un peu !» Dans la maison, on était tous fascinés. Mais je me rappellerai toujours, c'est que ma sœur, mes frères qui étaient là-haut, sont arrêtés de jouer. Tout s'est arrêté. Bah, d'un coup... Il y avait un oiseau qui était rentré dans la maison. Il faisait ça avec la voix. Mais il avait une puissance. Mais c'est un enfant de 9 ans. Il criait, mais à gorge déployée. Il tendait les bras. On est tous descendus à côté de ma mère. On l'a regardé. Il était comme ça, dans la cuisine. Comme s'il cherchait une tempête imaginaire. C'était incroyable. Et il criait, mais comme un goéland. Il y avait un oiseau d'entrée dans la maison. Et là, mon père, subjugué sur sa chaise, ne dit rien. Nous... on regarde, et mon petit frère qui regarde ma mère et qui dit « Comment il fait ?» Et à partir de ce moment-là, mon père va lui donner des cours. Quoi. Durant à peu près un an, Jean va venir tous les soirs. Donc je me cachais dans l'escalier, parce que moi, je voulais pas du tout assister. Je crois que je voulais pas désacraliser leur moment. Et puis, il y a eu un truc chez moi qui s'est joué, je pense, à ce moment-là. Maintenant, avec le recul, je peux le dire, c'est que il était un peu le fils adoptif. Tous les soirs, il venait, il était un peu le fils chéri, le nouveau fils, il avait à peu près mon âge. Il était un peu plus grand, mais il avait mon âge. Et surtout, il avait une connaissance extraordinaire. Il connaissait bien plus les oiseaux que mon père. Mon père les connaissait par expérience. Mais Jean, il connaissait les oiseaux par les livres. Jean, il parlait en latin. C'est-à-dire que mon père, il pouvait dire « Ouais, tu veux faire un chourlu ?» Et les gens, ils disaient, non, je veux faire le cours Lysandré. C'est sûr qu'après, moi, j'ai dû récupérer ma place de fils. Je pouvais pas rester comme ça. Alors, à partir du moment où Jean est rentré chez moi, j'ai arrêté de faire des dessins d'oiseaux. Et tout ce que lui, il emmagasinait, moi, de mon côté, je l'emmagasinais autrement. C'est-à-dire que j'avais que le son de leur échange. Et moi, toute ma démarche, ça va être derrière, de me cacher dans une forêt et de trouver un son très très puissant et très virtuose. Donc un an plus tard, sans rien dire à personne, mais personne n'était au courant. Je m'en rappellerai toujours, et c'était même, je crois qu'on partait pour voir mon grand-père, c'est très drôle, mais je suis dans la voiture, il y a tout le monde, et mon père il fait, ouais, il parle de Jean, il doit dire, ouais, parce qu'il y a un concours d'imitation d'oiseaux, et ouais, c'est incroyable, il s'est inscrit au concours, t'as vu, il a gagné, mais en fait ils ont fait une catégorie... pour les moins de 16 ans, parce qu'il voulait pas donner le prix à Jean parce qu'il était trop jeune. Il parle de ça, et moi je lui dis, ouais, mais papa, moi je pourrais faire le concours, tu sais. Et il me fait, ah bon? Tu veux faire le concours de quoi? Qu'est-ce que tu racontes toi derrière? Bah si, je peux faire le concours, moi je pourrais faire la grive, le merle, tout ça, regarde. Et là je lui fais le merle noir, qui est l'oiseau préféré de mon père, et certainement l'oiseau le plus virtuose qui existe en Europe, parce que c'est un oiseau très mélancolique, noir, sublime, qui se met... Enfin, ouais, c'est... Il dit, c'est pas possible, j'en avais un. Mais attends, j'en ai deux. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de concurrence qui s'est installée entre nous. Puis surtout, Jean est devenu le fils du pharmacien. C'était plus Jean, c'était le fils Bouco. Et mon père est très malin. Lui, il m'a dit, ce que tu as dans les mains, là, c'est de l'or, et tu en feras ton métier. Évidemment, j'ai regardé, du haut de mes 15 ans, je lui ai dit, papa, arrête de dire n'importe quoi, j'en ferai jamais mon métier, c'est pas possible. Tu t'imagines chanteur d'oiseaux, imitateur d'oiseaux, un métier. Non, mais t'es tombé sur la tête. Moi, je fais des études scientifiques, je fais ingénieur, et voilà, et c'est tout. C'est comme ça. Bon, c'est très bien, mon fils fait ingénieur. Voilà. Bon, je fais ingénieur, et... À 20 ans, j'ai eu besoin d'argent parce que j'étais étudiant, j'avais pas trop d'argent, j'avais besoin de payer mon loyer. Mon père, très intelligemment, m'a dit, écoute, c'est simple, moi je veux bien te payer ton loyer, mais tu me fais une chose, tu vas faire le concours de chant d'oiseau cette année, et comme ça, si t'as ton loyer, c'est super, puis si t'as pas ton loyer, ben écoute, je te le paye. Donc essaie de gagner le premier prix, t'auras ton loyer, puis si tu l'as pas, ben... et donc, et bien sûr, il m'a remis le pied à l'étrier, et comble de l'histoire, j'appelle le concours des chants d'oiseau. De concours d'imitation d'Abbeville, je dis ouais, je veux m'inscrire. Et ils me disent oui, mais vous pouvez pas vous inscrire. Cette année, on a changé les règles, c'est par deux. Je dis comment? C'est un duo cette année. Ah, c'est un duo. Et là, je prends mon téléphone, je dis bon, je vais appeler quelqu'un que je connais très bien, qui reste Jean, parce que je connais dans les imitateurs d'oiseaux, il y en avait qu'un que je respectais. C'était Jean. Donc je l'appelle, et bon, il était heureux. On fait le duo, on gagne le duo, je peux payer mon loyer. Et ce jour où on gagne, je lui dis. Jean, je crois clairement qu'on tient quelque chose, on a quelque chose à défendre artistiquement avec ce qu'on fait. En même temps, on a rencontré Jean-François Zigel. C'est lui qui nous a fait comprendre que notre matière brute était musicale et qu'il fallait donc l'associer à du Ravel, l'associer à du Beethoven, donc travailler musicalement ces oiseaux. Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble.
Et on a parcouru les routes du monde. On est allé à la Philharmonie de Varsovie, on est allé à Tokyo au Japon, dans l'Oural à Ekaterinbourg en Russie. On a joué au Maroc, on a joué en Amérique du Sud, en Uruguay, au Pérou. Après, c'était en Amérique du Nord. Évidemment, l'approche Europe, hein, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. On a pu vivre une véritable migration de l'oiseau. C'est ça qui est extraordinaire dans cette vie-là, c'est que tu es tout le temps vivant. Ça se rend survivant. On fait un spectacle la nuit de la voix, et dans la loge, on est avec une musicienne japonaise. Et on lui dit, ouais, dans 15 jours, on part au Japon, c'est super, on s'est entraîné, on est à fond, je lui fais la grue du Japon. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais personne ne connaît au Japon, la grue du Japon, personne ne connaît, c'est une espèce en voie de disparition. Non, si vous allez au Japon, il faut travailler un seul oiseau. Vous travaillez l'uguizou. Ah ouais ? Et c'est quoi ça, l'uguizou ? Ah, mais c'est un oiseau emblématique, c'est l'oiseau qui chante pendant qu'il y a les cerisiers en fleurs. Les geishas s'étalent la fiente du guizou sur la peau pour avoir une peau éternelle. Enfin, c'est vraiment l'oiseau emblématique. Ah bon ? Elle nous sort son téléphone et elle nous fait écouter un chant du guizou. On l'entend tout de suite. On lui refait le chant du guizou qu'on vient d'entendre. Et là, elle nous regarde. Et d'un seul coup, on voit son visage mais se transformer. Elle a 5 ans. Elle est avec sa grand-mère en train de se promener dans un petit parc au Japon. On la voit, c'est plus la même. Et effectivement, on a commencé à travailler l'uguizou. Alors l'uguizou, c'est que c'est...
Et puis, il y a ce moment incroyable du Japon, où on arrive à Tokyo dans une salle de 7000 personnes, et on décide de faire l'oiseau prophète. Donc très bien, Schumann. Et il y a ces intermèdes où il y a un silence. Et là, on fait... Mais on sent la salle vibrer. 7000 personnes. Tout le monde connaît du guizou. Ils ont une réaction, mais tellement forte. Ensemble. De 7 à 77 ans. Et tout le monde se met à réagir en même temps. Ils s'expriment. Normalement, ils ne s'expriment pas. Mais ils sont presque effrayés. Ils ont presque un cri en même temps. Quoi. Wow, enfin, c'est un oiseau, je ne sais pas. C'est pour eux, c'est leur cœur. Pour rester des heures à écouter la senteur mouchée. Il est juste au-dessus de nos têtes, là. Il y a une notion de méditation, peut-être, et de concentration extrême. Le son est incroyable. Ça s'arrête jamais. Ça me remplit de paix. Ça y est, il est à côté. Et plus on attend, et plus on devient invisible. Et puis il s'approche. Ça prend la patience. Les oiseaux. Regardez, il a un mètre à gauche. Il va se mettre à chanter. Faut apprendre à écouter. Les oiseaux, ça apprend à écouter.
Ah, accenteur mouché, c'est une autre espèce qui répond. C'est un petit accenteur, juste là, le petit oiseau gris, crie comme une souris. Et alors lui, il prend sur lui un mois par an, il perd toute sa peur, et il se met à se mettre sur un petit arbre à 3-4 mètres de haut et à chanter. Pourtant, tout le reste de l'année, il est tout le temps au sol. C'est un oiseau qui se met pas trop en avant, mais très discret, on va dire. Et là, vous voyez, il est en train de chanter, face au vent. Cette petite haie fait la limite entre les deux mâles. Donc les deux mâles auront chacun leur femelle. Et alors c'est un oiseau qui est très très connu parce que c'est l'oiseau le plus polygame qui existe. C'est-à-dire que les femelles ont une caractéristique, c'est qu'elles se font féconder par les différents mâles du coin. Le mâle, il vérifie qu'elle a bien été pas trop fécondée par son voisin. Il tape sur le cloaque pour faire éjecter les spermatozoïdes du voisin avant de se recoupler. C'est un oiseau voilà, qui paraît tout timide et c'est l'un de ceux qui a les mœurs reproductives les plus débridées. Et il est assez rigolo aussi parce que sa parade est assez nulle, c'est juste une petite aile qui se lève. Et donc quand il rencontre sa femelle, il lève la petite aile comme ça de manière répétitive. Et la femelle lui répond en levant la petite aile et juste après il s'accouple.
Quand on s'était rencontrés en 2008, vous étiez seul, vous disiez même que vous préfériez siffler que parler. Et que du coup, vous étiez seul, sans compagne.
Alors, ça a un peu changé. Hein. Entre-temps, grâce à un cri de mésange, j'ai accosté une demoiselle. Donc, je me balade et là, je fais le chant de la mésange comme je fais assez souvent. Et là, il y a une demoiselle qui se retourne et qui me regarde. Et là, je vois que le regard est... avec un sourire, qu'il se passe quelque chose dans le regard, qui était un regard profond et que j'ai pas encore vu jusque-là.
C'était quand ça ?
C'était juste en 2009. Voilà, c'est toujours. Et puis cette demoiselle s'est rapprochée et finalement, on a fait un nid avec deux oisillons. Voilà. Et c'est juste parti d'un cri de mésange. Et comme je connecte toujours par rapport aux oiseaux et par rapport à l'instinct que l'on a et j'essaie de trouver quel type d'oiseau j'allais être dans ma relation avec mes poussins. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment désemparé, c'est il y a deux types d'oiseaux. Il y a les oiseaux nidifuges et les oiseaux nidicoles. Alors, les petits oiseaux nidifuges, en fait, dès qu'ils naissent, ils sont aptes à marcher, à suivre leurs parents. C'est les petites oies, les petits canards. Ils sont très vite émancipables. Juste, le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas voler. Mais ils suivent leur mère, et ils savent tout faire. Ils font caca tout seuls, ils savent manger, boire. Et puis des petits nidicoles qui sont collés au nid, eux, ils sont nus, ils naissent nus, aveugles, et les parents doivent les surprotéger pendant 15 jours avant qu'ils puissent avoir leur premier duvet, leur première plume et pouvoir quitter le nid. Et bien là, quand on est parent d'enfants, on a des enfants nidicoles, c'est-à-dire ils sont nus, ils sont pipi dessus, ils sont vraiment... Enfin voilà, j'ai trouvé ça très très long. J'ai trouvé le petit bébé tellement fragile, tellement inapte... Et de ne pas comprendre les pleurs, ne pas comprendre... Je comprenais un chant d'oiseau, je comprenais les éléments, la nature, les saisons, le vent, la météo. Et de ne pas comprendre mon demi-fruit. C'est ça qui était déstabilisant.
C'est une fille, c'est ça ?
C'est une petite fille, ouais. Une petite mésange bleue, elle était superbe, avec des petits yeux bleus, exactement comme la petite mésange bleue qu'on vient de voir là. C'était incroyable. Je dis, mais c'est incroyable, c'est le même bleu que la mésange bleue. J'avais ce cadeau-là.
Comment elle s'appelle ?
Colline. Comme une colline, avec deux ailes pour voler.
Et votre fils ?
Pierre. C'est là-dessus que pousse tout. Hein. S'il n'y a pas la pierre, c'est la base, c'est les fondations.
Elle ressemble à quel oiseau, votre femme ?
Oh, c'est un mélange de tout, parce que ça peut être une corneille. c'est ça que ça dépend des... Et le retour de spectacle, quand on est une espèce d'euphorie, de bonheur, de sortir de scène, où on se croit tout puissant, et d'un seul coup, on revient à la maison, et là, ça reprend le cours du jour. Là, c'est compliqué, c'est là que ça peut être une corneille. Mais quand on repart, c'est une tourterelle, voilà, tout va bien. Oh, une petite mésange. Mes enfants, ils ont 8 ans et 10 ans. Ah, mes enfants, j'essaie de faire une chose, c'est de surtout pas les saouler. C'est bizarre ce que je dis, mais parce qu'à un moment, je sentais, ils disaient, papa, tu nous saoules. Parce que je siffle tout le temps, en fait. Moi, je parle pas, je siffle le matin, je me réveille, je siffle. Et donc, c'est très compliqué de pas épuiser leur amour de leur père et l'amour de la nature et des chants d'oiseaux. Donc, je leur transmets des choses, mais j'essaye de pas trop influencer, je laisse faire. Ah, c'est, on a un petit accent mouché qui nous a fait une petite levée d'aile. Donc il a dû voir une femelle. On a vu un petit coup d'aile. Ça va, Johnny ?
Et toi ?
Très bien. T'es allé faire un petit tour aux aile voir les phoques, c'est ça ?
C'est ça.
Il y a un petit rouge-gorge. Il est sorti, mais 4 secondes, il est re-rentré.
Tout à l'heure, il était là, hein. Tout à l'heure, il était... Ouais, je l'ai déclenché quand t'étais juste à côté. Il est venu, il nous a vu avec sa tache orange. Mais il avait froid, je crois.
Des bottes en caoutchouc, une petite thermos, et le paradis s'ouvre à nous. Mais les bottes en caoutchouc. Dès que je suis là, je les mets. C'est les bottes de 7 lieux. Dès que je les installe, dès que je les enfile, pour moi c'est la liberté. Ça, c'était mon surnom quand j'étais gamin. Dans le village, on m'appelait botte à caoutchouc. Botte à caoutchouc, hein. Ils disaient botte à caoutchouc. Hein. C'était botte à caoutchouc. On marche un petit peu vers la baie. on descend, hein. On est sur le Cap Ornu. C'est le début de la falaise qui va jusqu'aux falaises normandes. Hein. C'est le tout début des falaises normandes, en fait, ça commence ici.
Il faut s'imaginer quand même quand la marée est haute, tout est bleu.
Dans quelques semaines, il y a les grands limicoles qui sont encore en Afrique actuellement, là, qui vont remonter. Et toute cette zone-là, qui est un petit peu vide, un peu calme, on voit quelques mouettes au loin, c'est tout, va s'animer d'un concert exceptionnel de courlis, de chevaliers gambettes, de chevaliers harlequins, de chevaliers voyeurs. Quand ils arrivent là, ils ont volé 2-3 000 km, ils arrivent, ils voient ça, et donc là, c'est le garde-manger, c'est quelques jours d'arrêt, vite prendre leur force et repartir vers le cercle polaire. On est juste une halte, finalement, la baie de Somme, c'est une halte migratoire, et nous, depuis qu'on est gamin, on a toujours eu les yeux en l'air à chercher à les voir, et c'est beau. On entend très bien l'alouette, quand on est au loin tout à l'heure.
L'alouette des champs. Normalement, les oiseaux, c'est à portée d'oreille. C'est on ouvre la porte, on ouvre la fenêtre, il y a des oiseaux qui chantent. Ouais. Et c'est la première musique, je pense.
Ouais. Ouais. Après, il faut avoir les oreilles ouvertes. C'est un goéland argenté.
C'était un duo d'oiseaux, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Merci bien sûr à Jean Boucaud et à Johnny Rass. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 mars 2022 et sur notre site vous trouverez des tas d'informations sur Jean et Johnny et un lien vers le premier reportage que nous avions consacré à Jean Boucaud. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Nour Mohamedi, notre stagiaire.